Alors, je vais commencer en fait en plagiant un petit peu les introductions de deux communications de ce matin, c'est-à-dire que comme Simon Brousseau, je vais commencer par remercier les organisateurs et m'excuser pour mon absence de demain, la dernière séance en fait. Et ensuite, je vais enchaîner comme David Bélanger sur un récit de ma découverte de l'appel à communication. En fait, j'en ai eu connaissance alors que je redécouvrais d'une certaine manière le texte d'Yves Citon sur les lectures actualisantes, que, contrairement à plusieurs personnes ici, je connaissais très mal. Cela a été motivé par le fait que, depuis peu, mes propres recherches, ou enfin une part de mes recherches, m'avaient conduite à pratiquer ce type de lecture, sans trop m'en rendre compte au début. La coïncidence m'a incité à soumettre une proposition, si bien que ce que je vous proposerai de faire aujourd'hui, c'est, disons, de retracer ensemble mes premiers pas de Madame Jourdain de l'actualisation. C'est dire que ma communication, contrairement à celle qu'on a pu entendre ce matin, ne cherche pas tant à évaluer le geste actualisant d'une œuvre, plutôt à porter sur une œuvre un regard actualisant, afin de tester en pratique la possibilité, la pertinence d'un tel type de lecture sur un exemple précis. L'exemple choisi rend l'exercice particulièrement intéressant du fait qu'il traite conjointement de la guerre et du travail à une époque où la littérature française passe ces deux réalités sous silence et que celles-ci ont migré depuis à l'avant-plan du débat social, la loi travail nous le rappelle encore en ce moment, et aussi des représentations imaginaires. L'époque en question n'est pas si lointaine, mon titre l'indique, il s'agit de la fin des années 1960, néanmoins, le demi-siècle qui nous en sépare suffit à donner un intérêt nouveau et inédit au texte étudié. Il s'agit du roman « Élise ou la vraie vie » de Claire Etcherilly. En 1967, lorsque paraît le roman, l'heure est surtout au formalisme. Bien peu de textes parlent de travail, un thème qui n'appelle jusqu'alors que des rendus littéraires d'un réalisme assez classique. Et 5 ans seulement après les accords d'Évian, qui ont mis fin à la guerre d'Algérie, les représentations de cette dernière sont carrément inexistantes. Il faut dire que la guerre, ne voulant pas dire son nom, comme l'appellent les historiens, n'est pas même reconnue comme telle. Son statut de conflit armé entre groupes politiques dûment constitués ne sera officiellement admis qu'en juin 1999, sous la présidence de Chirac et par décret de la Chambre des députés. De même, il faut attendre 1984 pour qu'un récit, policier celui-là, aborde le massacre de manifestants algériens le 17 octobre 1961 à Paris. Les amateurs de polar parmi vous connaissent peut-être « Meurtre pour mémoire » de Didier Daninx, roman qui, d'une certaine manière, amorce, difficilement et à grand renfort d'hémoglobine, j'en oblige, une phase de réouverture de la mémoire éponyme. Les années précédentes sont en effet marquées par un phénomène contraire, à savoir l'oblitération de la guerre et des exactions commises à l'endroit des Algériens en métropole. Je cite Nelly Wolfe à propos de cette généalogie en montagne russe. Alors que notre époque se caractérise par une sorte d'inflation mémorielle, la période gaullienne, qui commence avec le retour du général au pouvoir en 1958 et s'achève avec l'élection de François Mitterrand en 1981, est réputée, à l'inverse, comme un temps de déflation mémorielle dont l'amnésie aurait, précisément, nourri l'hypermnésie qui s'est déployée à l'aube du troisième millénaire. La Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie sont les principaux événements traumatiques recouverts par cette dialectique de la mémoire et de l'oubli. Wolfe parle de dialectique de la mémoire et de l'oubli, une expression qui reprend et qui déplace l'analyse de Tsvetan Todorov, pour qui le second est une composante de la première. La mémoire, explique-t-il, ne s'oppose nullement à l'oubli. Les deux termes qui forment contraste sont l'effacement, l'oubli, et la conservation. La mémoire est, toujours et nécessairement, une interaction des deux. C'est justement au regard de ce processus que la double thématisation de la guerre et du travail prend tout son sens, mais aussi que le recours à la lecture actualisante paraît s'imposer de lui-même. Car si à son terme le roman s'empresse d'oublier l'une, la guerre, pour se rappeler, quoique d'une manière qu'on verra oblique, l'autre, le travail, les liens textuels des deux réalités problématisent leur remémoration conjointe, ou plutôt projettent leur transmission dans un avenir qu'on sera forcé de constater au présent non advenu. La métaphore du travail guerrier est une constante des textes du travail, du naturalisme à la période contemporaine. Elle prend ici un tour singulier dans la mesure où l'un de ses termes est constamment nié, et ce malgré son énorme importance sociale et symbolique. Après son dénouement en 1962, la guerre d'Algérie rejoint d'autres traumatismes historiques, tels la collaboration et la guerre d'Indochine, dans un refoulement généralisé des événements pouvant nuire au récit national nouvellement promu par la Ve République. La modernisation du pays parachève cette culture de l'oubli, mise en branle par l'histoire elle-même, en ce qu'elle mobilise activement les individus et les fait adhérer à une vision collective tournée vers l'actuel. Requise par le travail et la consommation, explique Wolfe, la société se détourne du passé pour ne penser qu'au présent. Ici encore, le traitement narratif élaboré par Etcherelli est éclairant. Cette distribution différenciée de la mémoire et de l'oubli problématise les rapports d'un moment historique particulier au temps, tout en nouant ses enjeux autour de la métonymie temporelle. Elle fait se côtoyer les étapes successives de la production d'un objet destiné à être consommé, que constitue une chaîne de montage. Élise ou la vraie vie aborde en effet la guerre par le biais du rapport amoureux d'une Française et d'un Algérien, tous deux ouvriers chez un constructeur automobile durant la phase prégaulienne du conflit. La narratrice, jeune fille pauvre de province dont la vie terne et cloîtrée avec sa grand-mère et son frère Lucien fait l'objet de la première partie du roman, monte à Paris en 1957 à la demande de son cadet. L'objectif du voyage, la vraie vie du titre, dont elle n'a un aperçu que dans les livres et les journaux de Lucien, qui dénonce tout ce qui lui avait paru naturel, c'est-à-dire la guerre d'Indochine et bientôt celle d'Algérie, les inégalités sociales, la misère ouvrière. L'expérience parisienne ne saurait être complète sans un passage à l'usine, et Élise s'engage comme contrôleuse chez Citroën. Elle y découvre la dure réalité tayloriste et celle, pire encore, des travailleurs immigrés. Parmi ces derniers, elle rencontre Areski, avec qui elle noue timidement une relation interdite, avant que ce monde à l'équilibre fragile ne s'écroule. Son frère se tue en vélo Solex, un genre de petit scooter, pour avoir voulu se rendre, du sanatorium où il est confiné suite à une trop longue exposition à la peinture industrielle, à la manifestation antifasciste du 28 mai 1958, et son compagnon disparaît dans une rafle policière à l'issue incertaine. L'héroïne, à la veille de son retour à Bordeaux auprès de sa grand-mère, peut donc conclure « La vraie vie aura duré 9 mois ». Sa tragique histoire d'amour est le point nodal du récit. Fabriquée en usine, c'est le rythme de la chaîne qui rapproche les amants, elle lie les luttes algériennes menées activement par Areski au travail industriel, mais aussi aux guerres préalablement évoquées. Pour Élise, par exemple, l'opposition à la guerre d'Indochine est la prémisse de celle à la guerre d'Algérie. Ces thèmes, cependant, ne sont pas traités de manière aussi directe les uns que les autres. Tout se passe comme si la vraie vie que connaît brièvement la narratrice ne devenait véritablement telle qu'en certains domaines. Ainsi, une équivalence symbolique est établie entre guerre et travail lorsqu'Élise, décrivant ses rendez-vous avec Areski, « Nous parlions rarement de la guerre, nous parlions de la chaîne », place les deux réalités en relation d'homologie grammaticale et fonctionnelle. Plus précisément, le travail en vient à représenter la guerre. Il en endosse les traits et reconduit les significations par différents moyens textuels que je n'aurai pas le temps de détailler ici. La permutation est complète dans le rapport à la culture écrite des deux thèmes, rapport qui enclenche une dialectique au terme de laquelle seul le travail, parce qu'il interdit une médiation graphique, correspond à la vraie vie recherchée. La guerre, elle, n'est discible que le temps du roman, lequel donne ainsi à voir les conditions, dont la mise en place est contemporaine de sa publication, selon lesquelles l'Algérie a pu s'effacer de la mémoire collective. La dernière page tournée, l'amnésie commence. Ce rapport différencié des expériences du travail et de la guerre avec l'écriture constitue donc la clé respectivement de leur transmission et de leur refoulement. Dans Élise ou la vraie vie, la guerre est une bataille de l'écrit déclinée en gros titres journalistiques dont l'actualité trop pressante empêche le travail formel nécessaire à son expression. La réalisation éventuelle de ce labeur, cependant, n'est pas exclue. Le roman se termine sur l'évocation d'une espérance qui couve sous les cendres dans l'attente du souffle qui l'attisera, image organique de la montée différée de l'espoir qui rappelle celle de la germination des hommes grandissant pour les récoltes du siècle futur qui clôt un des premiers grands romans français du travail, Germinal, et qui peut ici être interprété comme un appel personnel à une remémoration partagée. Les passages entre les deux paliers, c'est-à-dire l'individuel et le collectif, sont en effet fluides. Maurice Hulbach effectue le rapprochement sur la base de l'unicité des cadres sociaux qui les organisent, définissant ainsi la mémoire individuelle comme un point de vue sur la mémoire collective. Si chacun a son point de vue propre sur, selon la place occupée vis-à-vis du matériau mémoriel qui est lui commun, celui-ci reste inchangé, peu importe l'angle sous lequel on l'envisage. Chez Cirilli, la stase momentanée relève d'un oubli individuel, garant de la maturation prochaine du souvenir collectif, selon la relation dialectique de ces deux termes, qu'on a vu nécessaire à toute prise en charge mémorielle conséquente, au dire de Todorov. Dès lors, le texte, s'il symbolise la rupture qui a lieu à l'époque dans la passation de l'expérience de la guerre et thématise les conditions d'une amnésie à venir, croit ou veut croire à la potentialité d'une mémoire ressoudée après une période d'occultation. 50 ans plus tard, Élise s'est fourvoyée. Force est de constater que l'oubli partiel et orienté a trop longtemps été oubli total et hermétique pour avoir un avenir. Cela n'empêche pas le passé de ressurgir, bien sûr. Il le fait toutefois sous des formes déplacées qui mènent à ce que Todorov dénonce comme abus de la mémoire, c'est-à-dire à une remémoration sans autre fondement que la conservation d'événements révolus qui nous coupent du temps présent. Car s'il est essentiel de recouvrir le passé, cela ne veut pas dire, c'est Todorov qui parle, que le passé doit régir le présent. C'est celui-ci, au contraire, qui fait du passé l'usage qu'il veut. Or, c'est bien la première et malheureuse proposition qui me vient à l'esprit, tout extérieur que je sois à ces événements et avec la distorsion que cela suppose, lorsque je lis les réflexions historiques de Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet suite aux attentats de Paris de janvier 2015, à l'origine desquels ils placent, parmi d'autres événements bien sûr, la guerre d'Algérie. Dans un passage à propos du premier acte antisémite violent après la Deuxième Guerre mondiale, l'attentat du 3 octobre 1980 contre la synagogue de la rue Copernic à Paris, ils expliquent « À la croisée exacte du chassé-croisé meurtrier de la rue Copernic, entre l'antisémitisme de l'extrême droite et la haine des Juifs qui s'autorise de la souffrance du peuple arabe, se trouvait déjà, pour la France, l'immense blessure algérienne. » Où l'on retrouve Maurice Papon, préfet régional à Constantine depuis 1956, préfet de police à Paris lors du massacre de Charonne le 17 octobre 1961, où l'on retrouve l'OAS et le putsch des généraux, dont l'un donne désormais son nom à une rue de Béziers, mais où l'on retrouve aussi les atrocités de la guerre civile algérienne, etc., etc. J'ai tronqué la citation car, expliquent les auteurs, attirer ce fil, c'est toute la pelote qui vient. Manière imagée de suggérer un monstrueux ratage dans la préservation de l'histoire et ses conséquences désastreuses. Si donc l'identité d'un groupe se bâtit d'abord sur sa mémoire, il faut reconnaître que cette mémoire collective est sans doute davantage la somme des oublis que la somme des souvenirs, et par conséquent que les membres d'un groupe ont d'abord en commun ce qu'ils ont oublié du passé partagé. Afin de mieux comprendre la signification et les retombées d'un tel état de fait, un détour par la Grèce ancienne n'est pas aussi incongru qu'il en a l'air. Pour refonder la cité après la guerre civile qui suivit la défaite dans le Péloponnèse, les Athéniens firent serment, en l'an 403 avant notre ère, de ne pas se rappeler les maux du passé. C'est-à-dire qu'ils se livrèrent, sciemment et à l'instigation des vainqueurs démocrates des combats, à l'opération intellectuelle que les Français des années 1960 firent tous plus ou moins inconsciemment, selon Nelly Wolfe. Il ne s'agit pas là des seules occurrences historiques du phénomène, peu s'en faut. Néanmoins, l'exemple grec a ceci de particulier qu'il présente les rouages même de sa structure, dans une pureté qu'il est tentant de qualifier de tragique. En prêtant ouvertement serment, les Athéniens évaluent le marché de l'oblitération et l'acceptent jusqu'au parjure, puisque jurer d'oublier, c'est forcément se souvenir. Cette dualité est au centre de l'analyse que Nicole Leroux fait de l'événement. Comme si la mémoire de la cité, suggère-t-elle, se fondait sur l'oubli du politique comme tel. Ce glissement a pour fin de neutraliser le kratos, c'est-à-dire la victoire, la supériorité d'un parti sur un autre, dans Démocratia, au nom d'un idéal d'unanimité qui minimise la division et le débat, qui lui sont pourtant consubstantiels, afin de se masquer à elle-même, à la police au sens politique du terme, la réalité de son fonctionnement. Le parallèle est évidemment risqué, quoique l'historienne s'en autorise de semblables à propos des crimes contre l'humanité commis entre 1939 et 1945, mais cette automystification paraît aussi le fait de la France d'après-guerre à l'égard de ses pratiques coloniales et de leurs conséquences. Benjamin Stora, par exemple, montre bien que la censure qui frappe la guerre d'Algérie en métropole vise à préserver la population de la simple réalité. Dans les deux cas, le conflit ne s'efface pas si aisément. À propos de la guerre d'Algérie, je vous renvoie aux travaux historiques de Benjamin Stora, qui montrent bien dans « La gangrène et l'oubli » que, le rôle structurant que la guerre d'Algérie peut avoir eu à l'égard de la politique française subséquente. Du côté athénien, l'examen des plaidoyers juridiques de l'époque permet à Leroux de conclure que « barrer la mémoire » n'a d'autre conséquence que de mettre l'accent sur une mémoire hyperbolisée mais figée, ce qui nous ramène, en droite ligne, au phénomène d'inflation mémorielle constaté par Wolff suite à l'amnésie collective de la période gaullienne ou encore à la pelote empoisonnée de Boucheron et Rudboulet. Si maintenant l'on se risque à tirer de cette dernière un autre fil, en projetant sur fond contemporain les réflexions étymologiques sur la démocratie de l'euro, le constat n'est guère plus riant, mais en regard, cette fois, du pendant thématique de la guerre chez Etcherilly, c'est-à-dire le travail. Dans la mésentente, Jacques Rancière explique le triomphe actuel de ce qu'il désigne comme post-démocratie, soit le paradoxe qui fait valoir sous le nom de démocratie la pratique consensuelle d'effacement des formes de l'agir démocratique, par l'abandon de plusieurs conditions fondatrices du régime premier. Celui-ci aurait notamment renoncé à se définir comme le pouvoir du peuple, c'est-à-dire qu'au court-circuit du kratos des Athéniens, nous aurions substitué celui du démos, voire nous les aurions additionnés, car si les démocraties en cause ne sont pas du tout les mêmes, Rancière parle aussi d'excès consensuel. Les conséquences sont multiples. D'une part, la société supposément sans classe est le lieu d'une nouvelle exclusion plus insidieuse que ses formes antérieures. D'autre part, le partage du sensible réaménagé qui résulte de l'effacement du peuple et, dans son acception marxiste, du travailleur, est corollaire de phénomènes sociaux de vaste portée. Je cite Rancière, « Il y a 20 ans, nous n'avions pas beaucoup moins d'immigrés, mais ils portaient un autre nom. Ils s'appelaient simplement travailleurs immigrés ou, tout simplement, ouvriers. » L'immigré aujourd'hui, c'est d'abord un ouvrier qui a perdu son second nom, qui a perdu la forme politique de son identité et de son altérité, la forme d'une subjectivation politique du compte des incomptés. Ce qu'il a perdu, c'est son identité avec un mode de subjectivation du peuple, l'ouvrier ou le prolétaire, objet d'un tort déclaré et sujet mettant en forme son litige. Élise ou la vraie vie représente l'état qui précède cette désubjectivation de la figure ouvrière, avant qu'elle ne se scinde en deux, dans les mots de Rancière, d'un côté l'immigré, de l'autre ce nouveau raciste auquel les sociologues donnent significativement un nom de couleur, l'appelant « petit blanc » du nom naguère attribué aux colons modestes de l'Algérie française. Citation qui résonne bien avec le texte étudié. Et pourtant, la scission se profile justement dans la contradiction que recèle la xénophobie des ouvriers blancs et communistes du texte. Ceux-là qui auraient dû les accepter, les immigrés, les reconnaître, les avaient repoussés, eux qui clamaient dans leur congrès « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Elle se profile aussi, sur le plan métaphorique, dans la liquidation des deux travailleurs principaux du roman, hormis Élise. Cette dernière, de toute façon, ne s'intègre jamais vraiment à l'usine, pour plusieurs raisons, dont la plus évidente est qu'elle est une femme dans un milieu masculin. L'abolition narrative conjointe de Lucien et d'Areski est représentative de l'oblitération de la guerre. L'un se tue en voulant s'y opposer, le second en est directement victime. Toutefois, la différence entre les moyens mis en œuvre pour parvenir à cette fin est révélatrice du traitement du travail. Lucien est mis à mort par le texte, qui se contente de faire disparaître Areski en insistant un peu lourdement sur le cul-de-sac auquel sa recherche aboutit. Impossible de savoir ce qu'il est advenu de lui. Si cette incertitude mine la pauvre Élise, elle conduit le lecteur à se demander si ce degré de vitalité, en quelque sorte supérieur à celui de Lucien, n'est pas à mettre au compte de leur statut respectif. L'ouvrier français, c'est-à-dire en France l'ouvrier tout court, est tué. L'ouvrier immigré, ce n'est pas sûr. Peut-être, justement, parce qu'il n'est tué qu'à moitié, parce qu'il n'a perdu qu'une des composantes de sa double identité, la même qui est aussi annihilée chez Lucien. Il ne lui reste alors qu'une identité sociologique, dit Rancière, laquelle bascule alors dans la nudité anthropologique d'une race et d'une peau différentes, et, pour l'amoureux algérien d'Élise, dans l'effacement textuel. En d'autres mots, si du travailleur immigré est soustrait le travailleur, il ne reste que l'immigré, un fantôme du texte qui pointe vers son avenir incertain. Ces dernières réflexions sont à prendre avec toutes les réserves que l'orientation prospective qu'elle prête au roman suppose. En accord avec la position critique de Siston défendue dans l'ère interprétée actualisée, toutefois, elle s'attache à exploiter les virtualités connotatives des signes du texte afin d'en tirer une modélisation capable de reconfigurer un problème propre à la situation historique de l'interprète pour, finalement, apporter un éclairage dépaysant sur le présent. Le recours à la pensée de Rancière, permis par une perspective actualisante, a le mérite de nuancer la stricte opposition de la guerre et du travail en termes mémoriels, qui, de prime abord, c'est-à-dire si l'on s'en tient à l'analyse de leur rapport à l'écriture, paraît trop simple pour rendre compte d'une réalité complexe. Pour résumer trop rapidement, L'usine évacue la médiation graphique obligée qui fige et hyperbolise la guerre dans les mots de Laureau et rend dangereusement branlantes les projections textuelles de sa mémoire. Elle offre plutôt un accès à sa réalité au sujet, tout en ménageant la possibilité de sa mise en forme, selon un processus en deux temps qui induit un décalage reproduit dans celui entre le titre du roman qui en résulte, dont la troisième personne crée une certaine distance, et sa narration, liée à un jeu très intériorisé. Or, si dans la conjugaison de l'accident de Lucien à la disparition d'Areski, on lit le remplacement de la figure du travailleur par celle de l'immigré, la transmission de l'expérience de l'usine devient elle aussi incertaine, alors même que c'est un oubli, celui de l'idée de peuple, qui explique la mutation effective selon Rancière. Cela dit, il faut dire que si cette actualisation d'Élise ou la vraie vie est fructueuse et semble pertinente, c'est peut-être tout simplement et bien tristement parce que l'histoire elle-même s'actualise sans cesse. L'exemple de l'Athènes antique, que la modernisation française semble avoir recouvert de cette dialectique de la mémoire et de l'oubli dans les mots de Wolfe, semble prouver, de même que les parallèles dressés par Laureau avec la guerre de 1939-45. Dans cette optique, il me semble qu'une saisie réussie de la réalité contemporaine nécessite d'adopter à son égard une position semblable à celle que propose Giorgio Agamben. Dans « Qu'est-ce que le contemporain ?», le philosophe explique que l'appartenance véritable à un temps donné se vérifie, paradoxalement, à l'aune d'un certain déphasage entretenu vis-à-vis de lui, d'une inadéquation relative à ses prétentions et ses modes. Ce rapport décalé au présent, cette anachronie positive, qu'il emprunte d'ailleurs à Nietzsche, dont cela a été question ce matin, est celle qui a été adoptée ici pour comprendre le devenir de la guerre d'Algérie et du travail industriel en regard de leur thématisation par Clara Cirilli, devenir bien différent. Mais c'est aussi la position qui permet à cette dernière, à Cirilli, d'interpréter son propre présent. Car à bien y penser, et je terminerai là-dessus, les corps que l'on jette à la scène certaines nuits de grosses rafles dans l'ivresse de la haine, dont la vision obsède Élise, sont peut-être aussi, dans un roman publié en 67, quoi qu'il se déroule en 57, ceux d'octobre 1961. Je vous remercie.